Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 23h à Lviv.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous.
Endommagée, la centrale nucléaire de Zaporijjia serait un suicide. C'est l'avertissement lancé par le patron de l'ONU. Il était aujourd'hui en Ukraine. Antonio Guterres a rencontré le président Volodymyr Zelensky et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.
Le dialogue entre la Serbie et le Kosovo dans l'impasse. Les dirigeants des deux pays n'ont pas trouvé d'accord. Ils étaient à Bruxelles pour tenter d'apaiser les tensions.
Toujours pas de revendication après un attentat à Kaboul, en Afghanistan. Une puissante explosion a retenti hier soir dans une mosquée de la capitale. L'attaque a fait plusieurs dizaines de victimes.
Et nous irons aux États-Unis où le sort d'une jeune fille de 16 ans scandalise, indigne. La justice de Floride l'empêche d'avorter.
Le journal en français facile.
Le président ukrainien a donc reçu son homologue turc et le patron de l'ONU.
Oui, la rencontre entre Volodymyr Zelensky, Recep Tayyip Erdogan et Antonio Guterres s'est tenue à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Les trois dirigeants ont évoqué la guerre avec la Russie. Deux sujets en particulier ont été abordés. D'abord, les exportations de céréales ukrainiennes dans le monde. Et puis, les récents bombardements de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Cette réunion était donc l'occasion de rappeler que les attaques autour de la centrale pourraient avoir de très graves conséquences. Martin Chabal.
Nous ne voulons pas vivre un nouveau Tchernobyl, s'inquiète le président turc Recep Tayyip Erdogan. Si aucune solution n'a pu être trouvée lors de cette réunion tripartite, chaque représentant y est allé de son message d'alerte. Antonio Guterres s'est montré ferme sur le sujet et tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Tout dégât potentiel à Zaporijjia serait un suicide. Il se dit préoccupé par la situation et a de nouveau appelé à une démilitarisation de la centrale, occupée par l'armée russe, mais que les deux camps s'accusent de bombarder. Bien que cette réunion n'ait débouché sur aucun accord, Volodymyr Zelensky a estimé que la première visite de son homologue turc dans le pays était un message puissant de soutien. C'est avec lui que Kiev a négocié la reprise des exportations de céréales, autre point qui a été évoqué à Lviv. Le 25e bâtiment chargé de céréales est d'ailleurs sur le point de partir, et d'autres devraient suivre. Le secrétaire général de l'ONU a promis d'intensifier les exportations avant l'arrivée de l'hiver. Elles sont cruciales pour de nombreux pays d'Afrique.
Explication de Martin Chabal, et on l'apprend à l'instant, quatre fortes explosions ont été entendues aux abords de la base aérienne militaire russe de Belbek, c'est près de Sébastopol, la principale ville de Crimée sous occupation russe. Sachez par ailleurs que deux villages russes ont été évacués aujourd'hui à cause d'un incendie dans un dépôt de munitions près de la frontière ukrainienne.
De nouvelles discussions entre la Serbie et le Kosovo auront lieu dans les prochains jours.
C'est le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui l'annonce. Le président serbe Aleksandar Vučić et le premier ministre kosovar Albin Kurti se sont rencontrés aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique. Ces négociations, elles sont menées sous l'égide, sous la houlette de l'Union européenne. Elles doivent permettre d'apaiser les tensions entre les deux pays, mais pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Correspondance de Laurent Rouy à Belgrade.
Personne ne parle d'échec, mais ça y ressemble pourtant. Jeudi, les dirigeants serbes et kosovars, qui ne s'étaient pas rencontrés depuis plus d'un an, ne sont parvenus à Bruxelles à aucun accord. Il faut pourtant éviter la reprise des incidents dans le nord du Kosovo à majorité serbe. L'interdiction controversée des cartes d'identité et des plaques d'immatriculation serbes par Pristina pourrait intervenir dès le 1er septembre. Visiblement, le Premier ministre kosovar Albin Kurti tient à sa mesure discriminatoire au nom d'un principe de réciprocité qu'il façonne à sa guise. En face, le président serbe Aleksandar Vučić est resté tout aussi inflexible, même s'il a annoncé une rencontre au contour flou dimanche avec les représentants serbes du Kosovo. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a averti que les deux parties seraient entièrement responsables en cas d'escalade sur le terrain. Ils gardent pourtant espoir d'arriver à un accord avant le 1er septembre. Les représentants serbes et kosovars pourraient continuer les discussions vendredi à Bruxelles. Ils se sont en tout cas engagés à continuer le dialogue ces prochains jours. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Les pompiers luttent toujours contre les flammes en Algérie.
Oui, une vingtaine de feux de forêt sont toujours actifs, principalement dans le nord du pays. Ces incendies sont liés à la sécheresse et à une chaleur intense, très forte. Ils ravagent, ils détruisent tout sur leur passage. Au moins 38 personnes sont mortes, selon le dernier bilan. Des familles se sont notamment retrouvées piégées dans un autocar.
Et ce nouvel attentat dans une mosquée de Kaboul, en Afghanistan.
Au moins 21 personnes ont été tuées, 33 autres ont été blessées. La puissante explosion s'est produite hier, à l'heure de la prière du soir. Cette attaque intervient alors que le régime taliban vient de célébrer le premier anniversaire de son retour au pouvoir. Et pour l'instant, aucune revendication. À Kaboul, Sonia Ghezali.
L'explosion a eu lieu au cœur de l'édifice religieux au moment de la prière du soir dirigée par le mollah Amir Mohammad Kabouli. Des vidéos amateurs prises dans la mosquée quelques minutes après l'explosion et postées sur les réseaux sociaux montrent la puissance de la déflagration. Les tapis de prière sont couverts de sang, des corps déchiquetés jonchent le sol. L'hôpital Emergency, qui prend en charge à Kaboul les blessés de guerre, indiquait avoir reçu 27 victimes hier soir, dont des enfants, le plus jeune étant âgé de 7 ans. La mosquée se situe dans le nord-ouest de la capitale afghane, dans une zone résidentielle. Cette attaque rappelle celle qui a été perpétrée il y a une semaine dans une école coranique. Un kamikaze s'était fait exploser dans l'établissement, tuant notamment un chef religieux. L'attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique en Afghanistan, qui continue de s'attaquer régulièrement aux minorités chiites, ainsi qu'aux soufis et aux sikhs qu'il considère comme hérétiques. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
Aux États-Unis maintenant, Clémentine, le suspect de l'attaque contre l'écrivain Salman Rushdie plaide non coupable.
Hadi Matar, 24 ans, est accusé d'avoir poignardé l'auteur des versets sataniques. Il a été arrêté immédiatement après les faits. C'était vendredi dernier lors d'une conférence. Il est actuellement jugé devant un tribunal de Mayville, dans l'État de New York. Il doit à nouveau comparaître devant la justice le 7 septembre.
Et on en vient à cette affaire qui indigne aux États-Unis.
Une cour d'appel de Floride a maintenu une décision qui empêche une adolescente d'avorter. La jeune fille a 16 ans. La cour estime qu'elle n'est pas assez mature. Plusieurs élus démocrates ont fait part de leur colère. Ils dénoncent une guerre faite aux femmes en Floride. Christophe Pagé.
Dans quel monde une personne de 16 ans est trop immature pour se faire avorter, mais assez mature pour porter et élever un enfant? S'est indignée Joyce Betty, une élue démocrate de l'Ohio. Sur les réseaux sociaux, certains appellent à boycotter la Floride. En juin, la Cour suprême des États-Unis est revenue sur la garantie constitutionnelle du droit à l'avortement. Depuis, une dizaine d'États républicains l'ont interdit dans presque tous les cas. La Floride, elle, a changé sa loi pour interdire l'avortement après 15 semaines de grossesse et non plus 24. L'adolescente déboutée ce lundi n'est enceinte que de 10 semaines, mais comme elle est mineure, elle avait besoin du consentement d'un de ses parents. Or, ils sont tous les deux décédés. Elle a donc demandé une dérogation à la règle, expliquant qu'elle est encore à l'école, qu'elle n'a pas de travail et que le père de l'enfant ne peut pas l'aider. Mais ce lundi, la cour d'appel a confirmé un premier jugement, estimant qu'elle n'a pas établi qu'elle était suffisamment mature pour décider d'avorter ou pas. Lois Frankel, une élue démocrate du Massachusetts, a dénoncé un exemple dangereux et terrifiant de la guerre faite aux femmes en Floride et a appelé à combattre pour la santé, la sécurité et la liberté des femmes.
Le Vatican n'enquêtera pas sur les accusations d'agression sexuelle qui visent un cardinal canadien.
Effectivement, le pape François estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête contre Marc Ouellet. Ce cardinal canadien de 78 ans est accusé d'agression sexuelle dans son pays. La plaignante affirme avoir subi des attouchements inappropriés entre 2008 et 2010. Ces accusations ont été rendues publiques avant-hier, c'est-à-dire 3 semaines après la visite du pape François au Canada.
Enfin, on a appris le décès de l'un des plus célèbres poètes somaliens.
Mohamed Ibrahim Warsam, connu sous le nom de Hadraoui. Il était surnommé le Shakespeare somalien. Il est décédé aujourd'hui à 79 ans dans la région séparatiste du Somaliland où il vivait. Le président de la Somalie, Hassan Cher Mohamud, salue la mémoire d'un des intellectuels somaliens qui s'est efforcé de contribuer à la prise de conscience du peuple somalien.